Bonjour. Peut-être je vais refaire une présentation par rapport au mois dernier. Hein. Il y a eu un combat, je l'avais perdu, donc c'était Timothée qui avait prêché. Là, j'ai pas de concurrence, c'est facile ce matin. En janvier 96, j'ai déménagé de Toulouse. Ma maman s'était convertie à Toulouse dans les années 94-95. Donc l'évangile avait fait un grand chamboulement dans notre famille, parce que voilà, l'évangile n'intéressait pas grand monde, mais ma mère s'est convertie. Et on a déménagé sur Florac, et la première église où ma maman est venue et nous a amené, c'était ici, en janvier 96. Donc la première église dite entre guillemets évangélique, baptiste, où j'ai mis les pieds, c'était ici en janvier 96. Il a fallu un peu de temps avant que mon cœur s'attendrisse un peu, avant que j'accepte le Seigneur. Mais le Seigneur a fait son travail en moi et j'ai pu accepter sa grâce. Et puis ensuite, on est parti sur Florac parce qu'il y avait une œuvre qui commençait dans la famille Jacques Servas, dans leur maison. Et comme on était à Florac, ensuite on a quitté ici, puis on est parti là-bas. Et puis ensuite, le Seigneur a fait une œuvre en moi et m'a amené au ministère. Voilà, je ne vais pas donner tout mon témoignage, mais c'est pour montrer qu'il y a une histoire ici aussi pour moi de revenir ici, hein, d'apporter la parole. Donc 96, ça fait déjà quelques années. Hein, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de survivants de 96 ici. Hein. J'en vois deux déjà sur 3, 4. Hein, oui, je vois. Mais voilà, 96. Voilà, Madame Rodier et Annie, je pense. Et puis, je pense que là, tu n'étais même pas là encore en 96. Donc voilà. Et peut-être une ou autre personne, mais voilà. Vous savez, être orateur, intervenant extérieur, c'est à la fois simple, ça veut toujours rien dire ce truc-là, et à la fois compliqué. Je dirais simple, parce qu'on arrive, on prend notre message, on le fait, on s'en va, et puis voilà, l'église c'est plus trop notre souci parce qu'on est juste de passage. Mais pour moi, c'est plutôt le côté compliqué parce que je vous connais pas en fin de compte. Je vous connais pas. Quand je prêche à Floral, je connais un peu mes brebis, je sais dans quelle direction on peut aller, comment on peut les aborder, je connais leur histoire un peu à la plupart de chacun d'entre eux, mais vous, je vous connais pas. Par contre, je sais que j'ai une petite foi, mais dans un grand Dieu. Hein, vaut mieux avoir une petite foi dans un grand Dieu qu'une grande foi dans un petit Dieu. Moi, j'ai une petite foi, mais dans un grand Dieu, et qui sait chacun de vos besoins ce matin. La prédication, il est impossible, humainement, de nourrir chaque personne, si je devais le faire avec ma propre intelligence, parce que chacun ici, vous avez tous des besoins et des attentes différentes. Même au sein d'un couple, vous avez des besoins et des attentes différentes. Vous avez des combats qui sont différents. Vous avez des joies et des peines peut-être ce matin qui sont différentes. Donc là, il n'y a que la grâce de Dieu et la puissance de son esprit qui va pouvoir faire du bien à votre âme ce matin. Je ne vous demande pas d'être attentif. Attends, c'est fou ça, hein. Pendant les 35-40 minutes qui vont suivre, à tout. Mais demandez juste au Seigneur qu'il puisse vous parler à travers peut-être juste un mot, un verset, une phrase qui sera suffisante pour la mise en pratique de votre vie, pas seulement de la semaine. Souvent les prédicateurs disent « Bon, allez, prends ce qu'il y a pour vous cette semaine. » Non, pour le restant de votre vie. Il faut que les prédications dimanche après dimanche marquent notre vie. Pas juste la semaine, mais notre vie entière. Et j'espère que c'est ce que le Seigneur va faire ce matin. On va prier. Éternel, c'est juste une grâce de pouvoir me présenter ici. Il n'y a rien en moi qui mérite quoi que ce soit. Si je peux transmettre ta parole, c'est juste par grâce. C'est parce que toi, un jour, tu t'es intéressé à moi, tu es venu m'arracher dans ma misère et tu m'as appelé à te servir. Merci d'avoir suscité en moi cette foi de répondre à cet appel. Et merci Seigneur parce que tu préfères tout seul, mais dans ta grâce, tu veux des ouvriers pour proclamer ta parole. Et merci de m'utiliser ce matin, merci parce que j'aime ta parole. Garde-moi de toute bêtise et que je puisse prêcher ta parole de manière juste. Ce matin Seigneur, tu sais que le challenge est tellement grand de pouvoir nourrir ton peuple. Et je te demande, et encore c'est à toi sur qui je m'appuie, je te fais confiance. Nourris chacun ce matin, fais du bien à chacun, encourage, reprends, corrige. Exhorte, Seigneur, tu peux faire ça de manière extraordinaire. Alors fais-le, je compte sur toi. Seigneur, je te dis merci parce que je sais que ton esprit va le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors il y a un mois, j'étais venu, j'avais préparé une prédication sur le rocher, puis je vous avais fait un peu la bande-annonce, hein. Puis j'ai dit, bon, il faut que je revienne. Puis hier, je disais, ah là là, mais j'ai peut-être changé de message, j'ai autre chose que j'avais envie d'apporter à l'église. Et du coup, non. J'ai dit, on va quand même tenir la promesse. Je me suis engagé à prêcher sur cette notion du rocher. Donc, c'est ce qu'on va faire ce matin. Sur qui, si j'avais un titre à donner, sur qui ma vie est-elle fondée? Hein? La réponse du chrétien, si on devait se la poser maintenant, je dis, oh, c'est sur Christ, moi, il n'y a pas de problème. Ma vie, elle est fondée sur Christ. Alors, pourquoi nos vies sont-elles aussi instables? Pourquoi nos vies sont-ils autant instables? L'instabilité touche de nombreux domaines de notre vie. Et souvent, on fait des raccourcis avec l'instabilité. Toujours une personne qui est instable émotionnellement, on dit que ça, c'est une personne instable parce que c'est visible. Et souvent, on juge toujours les personnes instables, celles qui émotionnellement ne vont pas bien. Mais je pense que c'est faux. En tout cas, c'est insuffisant. Je pense que beaucoup de personnes sont instables. Et tu peux être très bien émotionnellement, mais peut-être très instable dans ta gestion de tes finances. Très instable au travail, dans ta vie d'église locale, dans ta vie de prière, dans ta vie de lecture de la parole, dans ton couple. Dans ta vie d'étudiant. On peut être instable dans tant de domaines, même si en apparence ça ne se voit pas. Des domaines qui ne se reposent pas sur Christ. Oh, du bout des lèvres aussi, hein, mais dans la pratique, non. Et plus j'étudie la parole, plus je me rapproche du Seigneur, plus je me rends compte de toutes mes instabilités, de toutes mes fragilités. En apparence, oh non, ce pasteur, il est vivant, il avance, il fait ça, il a ça. Ça, c'est les gens, comment ils te voient des fois. Mais toi, au fond de ton cœur, tu sais que t'es pas toujours comme ça. Et tu sais qu'au fond de ton cœur, t'es rempli d'instabilité. Pourquoi et comment tu le vois? C'est parce que quand tu vas avoir un agacement, quand tu vas t'énerver un peu, quand tu vas commencer à stresser, ça, c'est des signes d'instabilité. Quand il y a des situations dans ma vie où je commence à stresser, même si je suis quelqu'un qui arrive à pas trop le démontrer, mais qui au fond de moi, je sais que je stresse et ma femme le voit rapidement, c'est une forme d'instabilité parce que je ne me repose plus sur Christ, mon rocher, ce que nous allons voir ce matin, mais sur moi, ma façon de comment il faut que j'arrange la situation. Et chacun, on peut vite démontrer des signes d'agacement dans certains domaines de notre vie chaque jour, parce qu'on n'est pas vraiment stable dans notre vie. Le stress, la colère ou le manque de maîtrise de soi sont quelques-uns des signes d'instabilité de nos vies. Alors pourquoi est-il si important de comprendre la stabilité que nous avons en Christ, d'un point de vue d'abord personnel et d'un point de vue collectif? Parce que vous savez, notre instabilité affecte toujours les autres. C'est comme le péché. Souvent, on pense qu'on peut pécher chacun, de ce côté, on demande pardon et ça affecte personne, ça affecte moi. C'est un mensonge. Le péché, comme l'instabilité, comme tant d'autres choses qui sont néfastes, affecte toujours les autres. Et le corps de Christ, parce qu'on est membres les uns les autres. Mon instabilité affecte l'église locale. Mon instabilité affecte ma famille. Il y a toujours un impact. Alors, je vous invite à prendre un premier passage dans Psaume 18. C'est un psaume qu'on peut retrouver, ou même avant, on le retrouve dans 2 Samuel 22. Hein. 2 Samuel 22 et Psaume 18 sont les mêmes textes, en fin de compte. Mais on va aller dans Psaume 18 pour notre lecture de ce matin. L'instabilité, c'est avant tout un problème spirituel. Psaume 18. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Donc vous voyez le contexte, on le voit mieux dans Samuel. Dans 2 Samuel, il est oppressé. Il y a une tension avec Samuel, avec Saül qui est en train de le poursuivre. Donc des circonstances qui sont pas très agréables, même s'il y a la délivrance ici. Mais il y a des circonstances qui sont pas évidentes pour David. Et David va écrire ceci. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher. Ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris loué sur l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Alors la question qu'on peut se poser ici, c'est pourquoi David utilise une métaphore? Pourquoi parle-t-il de rocher? Vous voyez, il parle à deux reprises du mot rocher. Je ne sais pas si vous avez tout ça dans le verset 3. Éternel, mon rocher, première fois. Et puis ensuite, deuxième partie du verset 3, il dit, mon Dieu, mon rocher. Est-ce que vous avez tous mon rocher ou certains ont ma force? Tout le monde a mon rocher? Ok, bon, ça va, des fois on peut avoir ma force. Mais c'est intéressant, on va voir ça tout à l'heure. Il y a deux mots, je ne vais pas vous embêter avec l'hébreu là-dessus, mais il y a deux mots hébreux différents pour les mots ici. Pour le, mon premier, mon rocher, éternel mon rocher, et mon Dieu mon rocher. C'est deux mots différents en hébreu pour renforcer encore cette force-là. Mais pourquoi cette métaphore de mon rocher? David, quand il fuit, il faut essayer de comprendre le contexte. David, quand il fuit dans les montagnes. Il fuit dans un endroit qui est rocailleux, où les rochers, c'est ce qu'il voit. Il voit ça, des rochers. Et les rochers, ça servait à quoi? À se cacher de l'ennemi, mais pas seulement, à se protéger du soleil, de la pluie, à des circonstances ou à des paramètres qui peuvent m'affecter. Mon bien-être, ma personne. Et du coup, se mettre derrière un rocher pouvait nous protéger. Physiquement, ça, c'est le sens littéral du rocher. Et là, bien sûr, David... C'est une métaphore pour montrer que l'Éternel est bien au-dessus de ça et qu'on peut se cacher, s'appuyer sur ce rocher. Parce que lui, il ne bouge pas. Parce que lui, il est solide, il est vrai, il est authentique. Ce mot-là, qu'on voit le deuxième, « Mon Dieu, mon rocher » dans la deuxième partie du verset 3, c'est le même, on le retrouve encore, ce mot, au verset 31 ou 32 en fonction encore des traductions, ou des versions plutôt. Regardez verset 31 ou 32. Moi, je vais dans le verset 32 dans ma version. Peut-être certains l'ont dans le verset 31. Puis ensuite, on lira verset 46 ou 47 en fonction aussi des versions. Moi, je lis dans le verset 32 pour ma part. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si c'est notre Dieu? C'est Dieu qui me tient de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. C'est Dieu qui est encore notre rocher. Et là, il y a quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Et c'est un serviteur de Dieu, il y a des années, qui prêchait là-dessus et qui m'a ouvert les yeux de pourquoi il dit « il rend mes pieds semblables à ceux des biches ». Vous allez me dire « pourquoi tu ne t'intéresses pas à la partie avant ?» Non, moi ça m'intéresse. Pourquoi David, à mon avis, ou qu'on chante des fois ce cantique, mais pourquoi il dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches? Il me place sur mes lieux élevés. On repart avec notre géographie. On repart avec notre lieu aride où il y a des rochers où il se cache. Et quand l'ennemi arrive, il fallait se déplacer rapidement. Et les biches, elles, quand elles sont attaquées par l'ennemi, elles ont des pieds qui sont adaptés au lieu aride, au lieu rocailleux, et elles peuvent tac, 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 bondir et partir rapidement. C'est pas le sol, c'est pas les circonstances qui changent, mais c'est Dieu qui adapte le serviteur face à l'ennemi, face aux difficultés de la vie. Les difficultés de la vie, les circonstances de la vie, elles vont être là, comme ce sol rocailleux, il va être là. Mais Dieu va rendre mes pieds semblables à ceux des biches, il va m'équiper pour tenir bon face à l'adversité. Si je m'appuie sur ce rocher, si je fais confiance à ce rocher, Dieu m'équipe. Et c'est ce qu'il a fait avec David. Quand David dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, Saül continuait à l'attaquer. Le côté du temps, des fois, pouvait pas être forcément agréable. Mais David pouvait se déplacer parce que Dieu l'avait équipé. Parce que David avait décidé de placer sa confiance et s'appuyer sur son rocher. Et il me place sur mes lieux élevés. Donc ça veut dire qu'il était élevé. Il pouvait voir l'ennemi arriver. Il pouvait arriver en haut en s'appuyant sur ce rocher. Autre verset, toujours avec le même mot que nous avons vu dans notre verset 3, verset 47 pour moi, peut-être 46 pour d'autres. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Béni soit mon rocher. Et aujourd'hui, on a la mode avec les sois bénis tout le temps. Là. Ça me fatigue, ces choses-là. Mais en fin de compte, toujours, si vous cherchez, j'ai fait une étude là-dessus sur les sois bénis aux gens. Mais si vous réétudiez Éphésiens chapitre 1, verset 3, et même dans l'Ancien Testament, ou dans le Nouveau Testament, on voit toujours que la bénédiction, il y a deux choses. Elle va toujours vers Dieu, et là encore c'est le cas, et pas vers l'homme. Et il y a autre chose qui est intéressant, c'est que Éphésiens 3 nous donne quelque chose qui est une promesse. Vous avez toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est une action, en plus en grec c'est très fort, c'est une action accomplie et continue. Ça veut dire que c'est des choses qu'on a déjà. Pourquoi dire à quelqu'un quelque chose qu'il a déjà ou lui dire « j'espère que Dieu va encore plus te bénir que ça » alors que nous avons tout. Éphésiens chapitre 1 verset 3 est un verset très clair. Très clair. Des fois on demande des choses que nous avons déjà au lieu plutôt de les exploiter ou de les développer. Mais nous avons tout. C'est comme le fruit de l'esprit. Des fois on demande des choses du fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit vous l'avez en vous. Ça sert à rien de demander des choses que nous avons déjà. C'est incohérent dans notre vie de prière. Mais plutôt de développer ce que Dieu nous a donné. Ça c'est autre chose. Voilà, c'est la petite parenthèse sur le fameux soit béni qui court toutes les rues en ce moment. Si vous le faites dans vos textos, parce que moi j'en reçois tellement par texto ou par mail, j'ai aux gens, mais je suis déjà béni. C'est gentil, mais je suis déjà béni. Dieu me l'a déjà dit. Et je fais confiance à lui plus qu'à toi. Voilà. Bon, on continue. Donc dans ce psaume, David regarde à Dieu. Il veut nous encourager à nous appuyer sur ce rocher qui ne bouge pas malgré les circonstances. David, j'ai noté, aurait pu craquer ou se reposer sur ses propres forces ou moyens, mais il fait confiance à Dieu. Et Dieu, on vient de le voir, l'équipe pour ça. Vous savez, croire que Dieu existe, c'est une chose. Croire Dieu sur parole, c'est une autre chose. Beaucoup de gens croient, dans les fois dans l'église ou des chrétiens, croient que Dieu existe. Mais des fois, je vois des vies ou des comportements où je dis, mais tu crois pas Dieu sur parole, en fin de compte. Vous savez, la chose la plus terrible dans l'église, la chose la plus terrible dans une vie chrétienne, c'est de lire la parole de Dieu, de l'écouter, et de dire, waouh, c'est super cette prédication, oh, ce verset comme il est bon, et puis on le relit, oh, il est trop bon ce verset, oh, il est excellent ce verset. Mais qu'en fin de compte, ce verset n'a rien changé dans ma vie, m'a pas transformé en fin de compte, m'a pas percuté. Ça sert strictement à rien. Vous savez, c'est comme cette illustration de Francis Chan, qui dit à sa fille, va ranger ta chambre. Sa fille, elle monte dans la chambre. Puis quelques temps après, Francis appelle sa fille, il dit ça, il dit, c'est bon, t'as rangé ta chambre, j'ai vu qu'il y avait tes copines et tout qui sont venues. Non. Comment ça, non? Non, j'ai fait venir une copine, on a réfléchi d'abord en grec, comment il fallait ranger sa chambre. Puis après une autre, on a réfléchi en hébreu, comment il fallait ranger sa chambre. Et puis après on a réfléchi avec les autres copines, sont venues, comment il fallait ranger sa chambre. Mais bon, pas ranger sa chambre. Ça fait sourire, et c'est un peu nous des fois. On prend la parole de Dieu, et puis moi je suis quelqu'un qui aime étudier, on étudie comme ça, c'est magnifique, il y a tellement de richesse. Grec, hébreu, tout ça, là, on est ensemble, on fait plein d'études, c'est bien, c'est génial. Mais est-ce que ça a transformé ma vie? Est-ce que ça a changé ma vie? Est-ce que ça me pousse à adorer encore plus Dieu, à m'appuyer encore plus sur Dieu, à avoir une intimité, une confiance encore plus grande en Dieu? Si c'est non, ça sert à rien. Ça sert à rien. L'étude de la parole de Dieu est bonne et saine. Mais il faut qu'elle ait un but. Transformer nos vies et nous approcher encore plus de l'Éternel. Il ne faut pas oublier non plus que dans notre contexte, David était aimé par le peuple. Il aurait pu soulever le peuple contre Saül. Il aurait pu s'appuyer sur ses propres forces. Il ne l'a pas fait. David a fait le choix de s'appuyer sur ce rocher. Et la fois où il a voulu s'éloigner de ce rocher, je peux vous assurer que ça a été douloureux. La fois où David n'a plus regardé au rocher. La fois où David aurait dû s'appuyer sur le rocher, aurait dû être dans la présence du rocher. David a été oisif. Il n'a pas été là où Dieu lui avait demandé d'être. Il est resté à regarder quelque chose qu'il ne devait pas regarder. Ça l'a amené à chuter dans l'adultère, à devenir un meurtrier. Dès qu'on s'éloigne de ce rocher, nous sommes des êtres fragiles. Nos yeux, nos oreilles, nos pensées sont fragiles. Et nous sommes capables de faire des choses atroces, tout comme David. Dès qu'on s'éloigne de ce rocher, nous sommes en danger. Nous sommes en danger, mes amis. Et David avait compris que Dieu est la vraie fondation et la solide fondation. Après sa chute, il va revenir à l'Éternel. Il va revenir à l'Éternel. Et il ne recommencera plus jamais ce péché-là. Vous savez, Dieu ne s'écroulera jamais, contrairement à nos idoles, parce qu'on finit par leur ressembler. Vous savez, quand j'appelle nos petits cailloux, moi j'appelle ça. Nos idoles, c'est nos petits cailloux. On aime bien s'appuyer sur nos petits cailloux. Et je ne sais pas c'est quoi vos petits cailloux. On a tous des petits cailloux sur lesquels on s'accroche. Et c'est ça l'idole. L'idole, il t'attire. Il te vend quelque chose que tu sens qui est bon. On l'a chanté dans un cantique. Il te vend des mensonges. Et toi, tu y adhères. Et puis, à un moment donné, l'idole, il va faire quoi? Il va t'abandonner. Il va te laisser misérable. Mais tu es tellement accroché à lui que tu es obligé de revenir à lui. Au lieu de t'accrocher sur le rocher. Et la pire des choses, quand tu es un enfant de Dieu et que tu sais que c'est uniquement le rocher dans ta vie sur lequel tu dois t'appuyer et qu'il y a tous ces petits cailloux autour de toi sur lesquels tu continues à t'appuyer et qui sont toujours dans une insatisfaction, qui t'apportent toujours une insatisfaction, ils te font croire qu'il y a une satisfaction. Donc, tu t'appuies un peu sur eux et puis d'un seul coup, tu dis mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Pourquoi je m'appuie sur ces petits cailloux? Pourquoi je m'accroche à ces idoles qui font que du mal à mon âme? Alors que j'ai le rocher, je le connais, et quand je suis dans sa présence et je m'appuie sur lui, combien mon âme respire, combien je suis bien dans sa présence. Et quand ces petits cailloux et ces idoles voient que tu commences à les remettre en question, ils vont te laisser tranquille. Ils vont te laisser tranquille une semaine, deux semaines, un mois. Et toi, tu es content, tu dis, ah ouais, j'ai la victoire, je suis en train de m'appuyer sur ce rocher, je suis content. Et puis d'un seul coup, tu es tellement, tellement sûr de toi. Que ces petits cailloux-là, ces petites idoles, bam, elles te récupèrent. Parce que tu n'as pas coupé avec. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que quand Nathan va parler à David, il va remettre son péché en question. C'est l'idole de son cœur, hein, c'était de satisfaire ses désirs sexuels avec Bathsheba, il faut le dire dans ce passage-là. Quand David va comprendre ça, il va couper avec ça. C'est fini, il ne retouchera plus jamais dans ce domaine-là. Il va comprendre qu'il faut s'appuyer encore sur ce rocher. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut satisfaire votre âme. Le péché, c'est parce que Dieu ne me satisfait pas. Si vous goûtez à autre chose que Dieu dans votre vie, c'est tout ça, je m'inclus dedans. Il y a des moments où je ne goûte pas seulement à Dieu et ça veut dire que Dieu ne me suffit pas. Si Dieu me suffit, je n'ai pas besoin des autres choses. Je n'ai pas besoin des autres choses si Dieu me suffit. C'est un combat spirituel de chaque jour et surtout de revenir à la croix, revenir à l'œuvre de la croix. Il n'y a rien de plus extraordinaire entre l'amour et la justice. La croix t'accorde tout, te donne tout. C'est extraordinaire. Ce n'est pas le thème de ce matin, mais c'est juste extraordinaire. J'aimerais voir un autre passage sur la notion de ce rocher. C'est dans Matthieu 7, passage bien connu. C'est intéressant que Jésus finit son sermon sur la montagne avec cette histoire du rocher. Matthieu 7. On va lire à partir du verset 24. Donc là, le Seigneur est en train de prêcher à la foule, en train de faire son serment, ses prédications, et il va conclure avec ça. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc le « c'est pourquoi quiconque entend ces paroles », c'est toutes les prédications qu'il a enseignées avant avec les notions des heureux, où il y a aussi cette notion de qu'il faut choisir la porte étroite, le chemin étroit, la destination. Il parle aussi de ces faux docteurs, il parle aussi de ces gens qui font plein de miracles mais qui connaissent pas le Seigneur. Il y a tout un enseignement dans ces chapitres-là, vers chapitre 5, 6 et 7, faudrait lire tout ce qui précède, chercher d'abord le royaume de Dieu. Voilà, tout cet enseignement de Jésus, il a fait un enseignement assez profond et puissant, et là il dit maintenant, c'est pourquoi, quiconque entend tout ce que je viens de prêcher et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. En fin de compte, chaque dimanche, chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, je suis face à mes propres responsabilités. Dieu me responsabilise. Tu lis ma parole, tu entends ma parole, maintenant qu'est-ce que tu en fais? On ne peut pas prendre ça à la légère. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que je vais bâtir ma vie, ça construit ma vie sur le roc ou pas? Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Et elle est tombée et sa ruine a été grande. Excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes en attendant. Je prends des lunettes maintenant et je vois que je commence à faiblir en fin de compte. Je me suis trompé. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine était grande. Ok. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Si vous observez bien, les circonstances sont les mêmes pour les deux. Il y en a un, il a bâti sa maison sur le roc et l'autre sur le sable. Si vous bâtissez votre vie sur Christ, si vous bâtissez votre vie sur le Seigneur Jésus-Christ uniquement, les épreuves, vous allez en avoir. La vie chrétienne, c'est pas le monde des bisounours. C'est pas la tranquillité. Mais les circonstances difficiles de la vie vont arriver. Mais vous allez rester stable. Vous n'allez pas bouger. Si vous construisez votre vie sur autre chose, votre vie va se détruire à un moment donné. Des fois, ça prend 20-30 ans. Vous savez, il y a une histoire d'une maison où le toit s'est écroulé 40 ans après. Et les gens, quand ils ont inspecté, ils ont regardé, en fin de compte, il y avait une petite fuite. Et c'était des petites gouttes d'eau. Ting, 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 pendant 40 ans. On voyait rien, super maison en extérieur. Et à un moment donné, tout s'est écroulé. On ne peut pas jouer à cache-cache avec Dieu. On peut jouer à cache-cache avec l'Église, on peut jouer à cache-cache avec les frères et sœurs. Mais pas avec Dieu. Et ça peut durer 10, 20, 30, 40 ans cette histoire de cache-cache. Mais à un moment donné, si ma vie n'est pas fondée sur Christ, ça va s'écrouler. Vous pouvez être là dimanche après dimanche, hein. Vous pouvez être à toutes les réunions. Mais l'essentiel, c'est est-ce que je mets en pratique ce que Jésus dit? C'est ce qu'il est en train de dire ici. Je ne suis pas là en train de vous effrayer. Absolument pas. Et ce n'est pas du tout ma façon d'apporter la parole. Mais de nous responsabiliser face à l'importance de la parole. Combien je vois que c'est important, quand je comprends quelque chose de la part de Dieu, de le mettre en pratique rapidement. Est-ce qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, je pratique tout ce que la parole dit? Est-ce que tout ce que je prêche, je le pratique moi-même? Il faut être honnête. Non, sinon je serai Dieu. Mais est-ce que je veux tendre vers ça? Est-ce que je veux faire des efforts pour ça? Oui. Est-ce que j'ai des victoires? Oui. Oui. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de vos cœurs, chacun de nous. Il veut nous voir faire des progrès, avoir des intentions de dire « Ok, je veux faire des progrès, Seigneur, dans ce domaine-là. » Est-ce que je vais rechuter? Possible. Est-ce que je suis prêt à me relever par la grâce de Dieu, parce qu'on a un Dieu qui pardonne, pour que j'avance et que j'ai la victoire vraiment sur ce domaine de ma vie? Parce que je veux m'appuyer vraiment sur ce rocher? La réponse est aussi oui. Oui. Dieu vous a justifié. Dieu vous aime. Vous êtes son enfant. Vous êtes son enfant. Il ne va pas vous aimer plus ou moins même si vous chutez. Il ne va pas vous aimer plus ou moins si vous êtes à toutes les réunions et que vous êtes à fond dans la prière et dans la parole. Dieu vous aime. Parce qu'il vous a justifié à la croix. Si une fois pour toutes vous êtes son enfant, vous resterez toujours son enfant. Est-ce que votre communion, justification et communion, c'est deux choses différentes. Est-ce que votre communion avec Dieu peut être affectée à cause de votre péché, de votre désobéissance, parce que vous n'appuyez pas sur lui? Oui, c'est une chose. Mais vous restez son enfant. Mes enfants resteront toujours mes enfants. Même s'ils me font les pires craques, ils resteront mes enfants. Est-ce que leur désobéissance peut affecter ma communion? Oui. Mais leur statut avec moi, à mon égard, ne changera jamais. Et c'est pareil. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous resterez un enfant de Dieu. Ne culpabilisez pas pour ça. Par contre, demandez pardon, relevez-vous et appuyez-vous sur ce rocher. Parce qu'il veut, il veut, il attend que ça. Il attend que ça. Il vous aime. C'est un rocher solide. Le vrai, j'aime noter. L'unique. L'unique fondement. Hein? Et on ne peut pas avoir double construction. Nous avons tout pleinement en Christ. Pourquoi aller chercher ailleurs? Nous avons tout pleinement en Christ. Quel domaine tu as besoin de dire à Jésus ce matin? Pardon Seigneur, je dois te faire confiance dans ce domaine parce que si ce domaine est affecté, alors oui je me mets en colère, oui je suis stressé, oui je suis agacé, oui j'énerve tous ceux qui m'entourent, ou encore je suis instable parce que Dieu n'est pas ma priorité. Exemple dans la prière. Vous savez, on peut avoir l'apparence de la piété. J'ai eu des années de mon ministère où j'avais une apparence de la piété. J'ai dû confesser et demander pardon. Avoir l'apparence de la piété, c'est très facile. Mais savoir plier le genou et demander pardon, Seigneur. Je veux avancer avec toi. Allez, mets-toi en lumière. Il faut éclairer les choses. Il faut avancer. Ça, c'est moins agréable. Le fait que Jésus est mon rocher, cela devrait m'encourager à être stable pour la simple et bonne raison que cette stabilité habite en moi. Cette stabilité, en fin de compte, cette stabilité habite en moi. Si le Saint-Esprit est scellé en moi, si Christ vit en moi, comme dit Galates 2, ça veut dire que cette stabilité, elle est possible, elle est en moi. Elle est en moi. Mais le problème, c'est que ma chair, elle, qui est folle, ne veut pas s'appuyer sur ce rocher qui est en moi et préfère la stabilité que la stabilité. On est des êtres tordus, hein. Mais c'est possible d'être stable, parce que Christ vit en toi. Si du moins tu as accepté Christ. Hein, si du moins tu as accepté Christ. Regardez avec moi d'autres passages que vous connaissez bien. On va regarder lequel. On va regarder, bon, on va pas tous les regarder parce que le temps avance, mais on va regarder Romains 9 pour vous montrer que ce rocher, soit il va être en votre faveur, soit il va être en votre défaveur. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux s'appuyer sur le rocher qui est Christ. Romains 9. Romains chapitre 9, versets 32 et 33. Et on reviendra sur Israël à la fin de notre message, pour vous montrer que ce rocher, c'est pas qui est Christ, on ne prend pas ça à la légère. Soit on s'appuie dessus, soit on va se heurter à ce rocher. Et c'est pas agréable de se heurter au rocher. Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres de la loi. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, et là il est question de Christ, selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Vous voyez les deux effets et les deux actions ici, les deux attitudes de cœur par rapport au rocher. Il y a ceux qui continuent à fonctionner que dans un système légaliste où c'est que la loi, les œuvres, et ils vont se heurter à ce rocher de la grâce. Et puis il y a ceux qui vont se confier en ce rocher, et eux ne seront pas confus. Ils seront lucides, ils vont être stables. Toutes les fois où tu ne vas pas vouloir t'appuyer sur ce rocher, tu vas te heurter à Dieu, et tu vas avoir mal, ça va être dur. Toutes les fois où tu vas te confier en lui, tu vas tout abandonner. Tu ne seras plus confus, tu auras une paix, une joie. Pourquoi ne pas le faire alors? Hein? L'autre passage que vous connaissez bien, c'est juste un peu avant, c'est dans Actes. C'est un passage qui est assez connu, mais qui montre que c'est la notion du salut. Actes 4, verset 11. Vous avez le mot pierre, mais ça peut être c'est le mot aussi roc, hein, rocher ici que nous avons. Je prends ce verset parce qu'on voit que ce rocher est aussi dans le verset 12 la notion de la clé du salut. Jésus, la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de langue par le juif. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Mes amis, je ne sais pas si tout le monde est à Christ. Je ne sais pas si tout le monde est sauvé dans cette salle. Je ne vous connais pas. Mais une chose est sûre, c'est que si Christ n'est pas le rocher de ta vie, alors tu es perdu. Mais si Christ est le rocher de ta vie, alors tu es sauvé pour l'éternité. J'espère que Christ est le rocher de votre vie. J'espère vraiment. Parce que le jour du salut, c'est maintenant. C'est pas dans 3 minutes, c'est pas dans 1 heure, c'est pas demain. C'est maintenant. Vraiment, c'est maintenant. Alors, depuis tout à l'heure, vous vous dites, peut-être il nous parle d'instabilité, de stabilité, mais on n'a pas vu un seul verset qui parle de ça. Il nous parle du rocher, ça on l'a bien compris. Mais on n'a pas vu vraiment un verset qui parle de l'instabilité, d'être stable et tout ça. Alors, on va aller en voir un quand même. Parce que c'est bien beau de parler de tout ça, mais si on ne regarde pas un verset qui parle de ça, on va aller dans Colossiens. Et là, je me suis régalé en étudiant ce passage-là. C'est fou, la parole de Dieu. Vous savez, c'est un livre que j'enseigne à l'école biblique depuis 6-7 ans, Colossiens. Et c'est que dernièrement que j'ai vu quelque chose qui était très précieux dans ce verset qu'on va lire ensemble. Et je l'ai découvert grâce à la préparation du message dans le psaume 18, en fin de compte. On va aller dans Colossiens, chapitre 2, versets 5 et 7. Et là, on va voir la notion de stabilité. On peut lire à partir du verset 4 du chapitre 1. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marché en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Est-ce que certains ont la notion d'être stabilisés par la foi, dans votre traduction, où tout le monde a le mot affermi? Vous avez tous les mêmes versions. C'est incroyable. J'aime bien des fois qu'il y a des versions différentes pour le vocabulaire. Le mot que vous avez ici pour être affermi par la foi peut être traduit aussi par être stabilisé par la foi. Notre foi, notre confiance dans ce rocher qui est Jésus-Christ, me stabilise. Et c'est encore plus extraordinaire, c'est là que je viens à ma petite recherche. Bon, c'est peut-être un mot barbare, je vous disais. La Septante, c'est bon, j'ai perdu tout le monde, ou j'en ai encore quelques-uns avec moi. Ok, la Septante, 300 ans avant que Jésus-Christ arrive, les Juifs sont dispersés, vous savez, il y a une période un peu de 400 ans, là, on ne sait pas trop grand-chose, quoique on sait des choses, mais il n'y a pas de révélation écrite par rapport à ces 400 ans de l'histoire d'Israël avant Jésus-Christ. Et il y a un groupe qui était bon, hein, c'était les pharisiens, étaient bons à la base, après ils sont détournés, mais il y a un groupe de Juifs orthodoxes qui ont voulu écrire la parole en grec, parce que c'était le grec qui dominait cette période. Donc ils ont traduit l'Ancien Testament en hébreu en grec. Donc la Septante, c'est l'Ancien Testament écrit en grec. D'accord? On simplifie les choses. Et quand vous lisez le psaume 18, donc en grec, le mot rocher que nous avons eu tout à l'heure, c'est le même mot en grec que nous avons ici pour le mot stabilité. Donc le mot que les Juifs orthodoxes ont choisi pour ce mot rocher en grec, quand Paul, lui en tant que juif, ancré dans l'écriture, va utiliser ce même mot pour le mot que nous avons ici en Colossiens. C'est pour montrer que cette notion de ce rocher dans le psaume 18 que David est en train de parler, qui est l'Éternel, qui est le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, ce Dieu, quand on s'appuie sur lui, nous apporte cette vraie stabilité dans tous les domaines de notre vie. Et là, c'est un engagement qui nous demande ici l'apôtre Paul, ou en tout cas le Seigneur à travers l'apôtre Paul. Vous avez reçu du Seigneur Jésus-Christ de marcher en lui, d'être enraciné en lui, d'être fondé en lui, et d'être stable par la foi de tout ce que vous avez entendu, toutes les instructions. Vous avez, c'est encore ça, d'après les instructions qui vous ont été données. Mes amis, ici, vous avez reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'instructions. J'ai reçu beaucoup, beaucoup d'instructions. Ma vie se doit d'être stable. Ma vie se doit d'être stable et de m'approcher encore plus de l'Éternel. Suis-je stable dans ma foi? Vous savez, c'est... Bon, ici, il y a peut-être moins de couples que dans mon assemblée. Mais vous savez, c'est comme la stabilité dans un couple. On veut chercher à droite et à gauche. Toujours qui est coupable. Et je dirais à mes amis mariés que les problèmes dans nos couples, ce sont des problèmes souvent, des problèmes spirituels liés à l'instabilité de nos vies personnelles. Parce que on est en train d'avoir deux petits cailloux qui sont en train de se disputer ou de s'appuyer eux-mêmes sur leur petite pierre au lieu de lâcher et de s'appuyer sur le rocher. Et pour la stabilité d'un couple, il faut que les deux comprennent que l'important c'est de s'appuyer sur le rocher et d'avoir la même direction. J'ai un public aussi étudiant. Mes amis, si c'est vos études sur lesquelles vous vous appuyez, si c'est vos petites pierres, c'est vos études, parce que vous avez une carrière professionnelle en vue, vous vous échouerez dans votre vie. Je suis dur, hein? Parce que vous aurez loupé l'essentiel. Vous aurez peut-être une super carrière professionnelle. Mais d'abord, appuyez-vous toujours sur ce rocher. Dès qu'il y a quelque chose d'autre qui prend la place de Dieu, vous allez ressembler à ces choses-là, à ces petits cailloux, à ces petites idoles. Mais vous ne réussirez pas spirituellement. Oh, peut-être vous allez réussir aux yeux du monde. Vous allez réussir peut-être matériellement. Oui, c'est bien. Mais spirituellement, tu peux avoir toutes ces choses-là. Vendredi, je parlais à un ami à moi qui a joué en Ligue 2 au football et qui aurait pu jouer bien plus haut encore et qui côtoie que le monde des professionnels, du monde du football. On a discuté pendant 1h30. Il m'a cité plein de grands noms de joueurs que je ne citerai pas. Il m'a dit, tu sais, celui-là, il a tout. Mais en fin de compte, il est malheureux. Là, il est en train de divorcer avec sa femme. L'autre est tombé dans la drogue, dans la cocaïne. L'autre, ça. Et des joueurs qui ont même joué au niveau international. Il me disait, voilà. Notre vie doit s'appuyer uniquement sur ce rocher. Il n'y a que lui qui peut combler notre cœur. Je finis avec deux passages. L'un à suivre, l'autre à éviter. Ce sera un peu l'application aussi pratique. On va aller voir une femme qui s'appelle Anne, dans 1 Samuel 2, qui a pleuré, qui a souffert. Et peut-être des fois on pleure, on souffre dans notre vie chrétienne. C'est dans 1 Samuel au chapitre 2. Mais regardez sur qui va s'appuyer cette femme. Vous savez, elle avait un problème de stérilité. Cette femme va s'appuyer sur Dieu. Et c'est une prière qui est belle, vraiment une belle prière que j'aime lire, que j'encourage les chrétiens à lire, vraiment, parce que elle nous encourage à avoir les yeux focalisés sur notre Seigneur. Anne pria et dit, 1 Samuel au chapitre 2, elle dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Et voilà, on arrive à notre verset. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Le mot rocher, c'est le même mot en hébreu que nous avions dans notre psaume 18, verset 3. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Comme on disait tout à l'heure, on va avoir un nouveau président ou présidente ce soir. Qu'importe, c'est pas le rocher cela. C'est pas le rocher. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Dieu fait comme il veut. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, c'est l'Éternel qui enrichit. Il abaisse, il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, et il ordonne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le fondement. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Il n'y a point de rocher, mes amis, comme notre Dieu. Il n'y en a aucun autre. Aucun autre. Ça, c'est l'exemple à suivre. Et l'exemple à éviter, c'est dans Deutéronome 32. Toujours le même mot que nous avons de notre psaume 18, nous le retrouvons en Deutéronome 32, verset 4 et verset 18. On va lire d'abord le verset 4. On parle de l'Éternel au verset 4, Deutéronome 32. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. La perfection, aucune faille. Il est juste, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ce verset 4?
Hein? Qu'est-ce que Moïse pouvait vouloir donner de plus au peuple que ce verset 4? Il est le rocher.
Regardez le verset 18.
Il parle et là on parle d'Israël. Israël, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité. Tu as abandonné le verset 4, Israël. Pourquoi? T'avais tout. Parce qu'Israël a préféré s'accrocher à ses petites pierres, à ses petits cailloux, à ses idoles. Et Israël a tout simplement ressemblé à ce qu'il a voulu adorer. Vous savez, le veau d'or, ça approfondir. Mais ils n'ont pas fait un veau par hasard. Hein. Je pense qu'ils ont fait surtout un veau parce que ça leur correspondait bien. Têtu et la tête baissée à ne pas vouloir écouter. Ne soyons pas comme Israël. Un exemple invité. Nous, nous savons un rocher qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ses œuvres, son œuvre à la croix est parfaite. Nous avons tout pleinement en lui. Il est juste et fidèle. Il faut s'appuyer sur lui. Ce matin, c'est juste un rappel. Tout ce que je vous ai dit, vous l'avez déjà entendu dans votre vie chrétienne. Et Dieu est sa pédagogie, c'est la répétition. Comme nous, les parents, avec nos enfants. Il fait la même chose. Alors, tout ce que nous avons entendu, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 7, qu'on puisse le mettre en pratique pour construire notre vie et faire des progrès dans notre vie de tous les jours. Relisez les versets que nous avons lus ce matin. Et accrochez-vous à ça, que votre foi soit stable et ferme dans tous les domaines. Je sais que c'est une église locale qui a beaucoup de potentiel. Je sais que vous avez vécu des situations qui ont pu justement déstabiliser un peu l'église. Mais accrochez-vous à votre berger, qui est l'Éternel. Appuyez-vous sur ce rocher. Le Seigneur va prendre soin de chacun d'entre vous. Mais c'est une responsabilité d'abord personnelle. Personnelle. Et ensuite, cette responsabilité personnelle va apporter du fruit de manière collective. On va prier. Seigneur, tu es le berger de nos âmes. Tu es ce rocher par excellence. Merci parce que combien tu as consolidé ma vie jour après jour. Il y a encore beaucoup de lacunes, beaucoup de défaillances, mais je veux encore faire des progrès avec toi dans ces domaines-là et apprendre à te lâcher vraiment tous les petits domaines de ma vie. Ces endroits, ces pièces qui n'ont pas encore été abandonnées ou pour que tu puisses venir les visiter, viens les visiter encore, Seigneur, afin que vraiment toute ma vie soit appuyée sur toi. Je sais que les circonstances de la vie, les orages de la vie vont arriver, ils sont déjà arrivés. Mais moi, je veux m'appuyer sur toi qui es l'Éternel, parce que je t'aime, ô Éternel, comme l'a dit David. Je veux m'appuyer sur ce rocher, cette forteresse. Oh Seigneur, je veux prier comme Anne. Seigneur, merci d'être le rocher de ma vie. Pas seulement en parole, mais je veux vraiment le démontrer dans ma vie pratique au quotidien. Oh Seigneur, merci. Merci parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui est plus rassurant que toi. Rien. Seigneur, quand on pèse, on voit qu'il n'y a rien. Apprends-nous à faire tous des progrès ici et à grandir avec toi. Merci pour ta grâce, merci de ta compassion, merci d'être un Dieu qui est lent à la...